Alors j'espère que vous vous souvenez bien des chants qu'on a chantés ce matin, parce que il est assez fréquent que les chants correspondent bien au message, mais alors là aujourd'hui c'est l'apothéose, et même jusqu'à la présentation du livre là qui vient de nous être faite, et vous allez je pense comprendre pourquoi. Nous poursuivons notre étude de la première épître aux Corinthiens que nous avons commencé au printemps. Nous en sommes toujours au chapitre 1 pour cette troisième prédication, mais ne vous inquiétez pas, nous allons finir le chapitre 1 aujourd'hui et même entamer le chapitre 2. Lorsque Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, cette première épître, qui n'est pas la première en fait, mais qui est la première que nous avons, il est à Éphèse, de l'autre côté de la mer Égée, et en fait pas si loin que ça, à vol d'oiseau. Et en juin dernier, nous avons vu Paul s'insurger contre l'esprit de parti qui se développait dans l'église de Corinthe et qui venait de lui être rapporté. Peut-être que vous vous souvenez comment cet esprit de parti se manifestait. Les uns se revendiquaient d'Apollos, un orateur zélé et éloquent, comme les Grecs peuvent en raffoler. D'autres se réclamaient de Pierre, probablement ceux qui étaient plus attachés à la loi juive, et d'autres se plaçaient au-dessus de la mêlée, en quelque sorte, les super-spirituels, en se targuant de n'en référer, eux, qu'à Christ. Les derniers se réclamaient de lui-même, Paul, fondateur de la communauté. Et nous avions vu l'autre fois que Paul rejette cette forme d'instrumentalisation de son ministère d'évangéliste en rappelant qu'il n'a finalement baptisé que peu de Corinthiens, se refusant ainsi à devenir leur maître à penser. Et je reprends donc le texte à l'endroit même où nous l'avions laissé, au verset 17, du chapitre 1, qui est un peu un verset charnière, car il fait le lien entre le thème de la dernière fois et celui que nous allons découvrir ce matin. Et donc chapitre 1, verset 17, « Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'Évangile. Et cela, sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. » En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous, ce que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Nous nous arrêtons là pour l'instant. Et donc dans ce verset 17, Paul rappelle sa vocation, son appel, proclamer l'Évangile. Et ça, c'est le côté de la charnière qui se rattache au thème précédent. Je suis appelé à proclamer l'Évangile, point, pas à me faire une réputation parmi vous, les Corinthiens. Et pour renforcer le clou sur cette histoire d'aura personnelle, Je n'ai pas cherché à vous séduire par des beaux discours, mais je vous ai annoncé l'Évangile dans toute sa plénitude, sans vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Et c'est sur ce point, la mort de Christ, que Paul va appuyer la suite de son propos. Il faut bien comprendre que pour un Grec, comme pour un Juif, la mort d'un homme sur une croix romaine, ce n'est pas vendeur. Est-ce que c'est vendeur, d'ailleurs, aujourd'hui ? Alors peut-être les siècles de christianisme qui nous séparent de ces écrits ont banalisé la croix au point de faire oublier le côté horrible et dégradant. L'image d'une croix souligne aujourd'hui plus la présence de chrétiens en un lieu, comme ici même, sur le lieu où elle est dressée. Et quand la croix rebute aujourd'hui, en tout cas en France, c'est plutôt sur des questions de laïcité, de respect d'un lieu ou de cohérence avec un contexte. Mais la constance avec ce que nous lisons ici, c'est que finalement, chacun ramène la croix à ses propres valeurs. Et pour notre public, en grande partie grec, et dans une moindre mesure aussi d'arrière-plan juif, chacun va appréhender le sens de la croix avec ses propres clés d'interprétation, selon ses propres critères. Lorsque Paul emploie le mot « folie », alors on a dépassé maintenant le... juste passer à la... éteindre ce... Voilà, très bien. Merci. Lorsque Paul emploie le mot « folie » pour décrire la qualification qu'en donnent les Grecs, il faut bien comprendre que ce que pour eux ça signifie, ce mot « folie ». En fait, ça veut dire « c'est idiot, c'est débile, ça n'a pas de sens, c'est stupide, ça ne tient pas debout ». Un Dieu qui se prétend le Dieu unique, créateur de toutes choses, vous compris, et qui se présente à vous cloué sur une croix, rejeté par ses propres créatures, et pire encore, rejeté par celles qu'il avait choisies pour le représenter. Vous croyez que je vais avaler ça ? À votre place, je me méfierais. Et il faut nous replacer dans le contexte grec du rapport à la divinité et le rapport ambivalent que les Grecs ont avec leur Dieu. Leurs dieux sont immoraux, capricieux, imprévisibles, pervers, inconstants et en même temps incohérents, irréfléchis. Un nouveau Dieu qui se laisse cloué sur une croix par des humains, c'est quoi ? Un Dieu faible ? Quel intérêt ? À moins que ce soit une stratégie pour mieux nous embrouiller, nous embobiner. Il faut voir dans la mythologie grecque les coups tordus auxquels se livrent les divinités entre elles et envers les humains, et souvent parce que ça les amuse, hein, ça ne va pas plus loin que cela. À ce titre, je vous renvoie vers la série d'émissions « Les grands mythes » qu'on peut visionner sur Arte. Dans le monde très cosmopolite de l'Empire gréco-romain, du temps de l'apôtre Paul, l'offre était devenue pléthorique, l'offre religieuse en dieux de toutes sortes. C'était un peu comme pour les smartphones d'aujourd'hui, hein. Il y a une application pour tout, et même plusieurs applications pour un même but. Et bien là, il y avait un dieu pour tout. Et parfois même, leur champ d'action se chevauchait. Le résultat de ceci, c'est le sociologue Rodney Stark le décrit très bien, c'est un deuxième livre que je vous présente, qui n'est peut-être pas encore à la bibliothèque, mais que j'ai lu cet été, que j'ai trouvé intéressant, chez Excelsis, l'essor du christianisme. Il dit « Il y avait trop de cultes, trop de mystères, trop de philosophes de la vie, on ne savait comment choisir. Devant un tel étalage, les gens étaient submergés par les choix à faire, ce qui les dissuadait de miser sur quelque culte que ce soit. Les dieux païens n'étaient pas vraiment divins, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et au sens où l'entendaient les premiers chrétiens. Aristote enseignait que les dieux étaient incapables d'amour pour les simples mortels. Rien ne garantissait aux humains que les dieux se souciaient vraiment d'eux lorsqu'ils sollicitaient leur secours. S'adresser à un dieu pouvait même en irriter un autre. Alors, dans ce contexte, évidemment, on imagine qu'un dieu d'amour ne peut qu'éveiller soit la méfiance, soit être disqualifié, car stupide et insensé. Comment concevoir un dieu qui renonce à ses prérogatives, qui vient habiter parmi les humains et donne sa vie pour eux? Ça n'a pas de sens, c'est une folie. Et on comprend dans le propos de Paul que c'est ce qu'il a entendu tous les jours dans le monde grec en réponse à son annonce de l'Évangile. C'est son vécu, c'est ce qu'il entend, une folie. L'Évangile, la bonne nouvelle, vous parlez d'une bonne nouvelle. À côté, ou mêlé à cette profusion de divinités, nous avons la sagesse prônée par les philosophes de tous ordres, lesquels représentent tout un panel de philosophies contradictoires, mais qui ont entre elles un point commun. Elles sont toutes orientées vers la vie terrestre, la vie intérieure, la vie sociale, en écartant la plupart du temps toute notion d'éternité, de transcendance. Alors l'idée de salut n'était pas vraiment complètement absente, mais elle ne concernait que la vie présente, et non l'au-delà, la vie éternelle. Et d'autre part, les philosophes grecs de cette époque considéraient la pitié et la miséricorde comme des émotions pathologiques, des défauts de caractère que devait fuir tout homme sensé, parce qu'elle impliquait l'apport d'un secours immérité, la miséricorde était contraire à la justice. Les hommes devaient réfréner leur pulsion charitable. L'appel à la miséricorde de celui qui ne l'avait pas mérité devait demeurer par conséquent sans réponse. La pitié était une faille de caractère, indigne des sages, une manifestation patente d'immaturité. Que ce soit dans la religion ou la philosophie, ce que recherchaient les Grecs, c'était des bénédictions pour le présent. Santé, richesse, délivrance des dangers, promesse d'une bonne récolte, d'un enfant, vie heureuse, paix intérieure, sérénité, mérite, honneur. Cette vision limitée à la vie présente et cette incapacité à se projeter dans l'éternité peuvent expliquer la difficulté que ont les Corinthiens, on le verra au chapitre 15, à croire en la résurrection. Mais au travers de ces quatre questions que Paul pose, il met en évidence les limites de la sagesse purement humaine. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? Peut-être vous avez dans vos Bibles des traductions un peu différentes de cela, mais l'idée est quand même là. Et la réponse, la voilà. Hein. Mais parce que, et en aucun cas, donc ce que dit Paul, en aucun cas, elle ne permet aux hommes de reconnaître Dieu. Là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse humaine. Cette opposition entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Mais parce que lui, Dieu aime les hommes et qu'il veut en sauver quelques-uns, le message qu'il leur renvoie tranche radicalement, je dirais follement, avec tout ce qu'ils connaissent. Et ce message, c'est celui de la croix. L'autre arrière-plan culturel et religieux dont il est question ici, ce sont les Juifs. Alors eux, c'est très différent, il ne faut pas leur parler de divinités païennes. Et ils sont au clair avec ça depuis des siècles, pour avoir payé cher leurs écarts de conduite dans ce domaine. plus monothéiste qu'eux, tu meurs. Mais quand même, ils ont deux problèmes. D'une part, leur Dieu est puissant. Il a fait sortir leur père d'Égypte, il les a conduits dans le désert. Il leur a donné une terre en les rendant victorieux de tous ceux qui l'occupaient ou la leur contestaient. Ce Dieu-là ne peut pas mourir de la main des hommes. Évoquer une telle éventualité est un blasphème. Dieu ne sauve que par sa puissance. Dieu ne vient au secours des hommes que par des prodiges et des miracles. Le Dieu qui n'a pas accordé à leur père, Abraham, Jacob et Moïse, de les voir de face, vous l'imaginez se baladant au milieu de nous en chair et en os? Vous plaisantez? Le Dieu saint cloué sur une croix comme un malfaiteur? Le Dieu éternel perdant sa vie sur cet instrument de mort? Et puis leur deuxième problème, c'est que il faudrait partager désormais ce soi-disant salut, ce soi-disant sacrifice qui viendrait clore et remplacer définitivement le sacrifice du temple avec tous ces païens idolâtres, sans même les circoncire, sans même leur imposer de suivre la loi de Moïse, et pour finir, les appeler frères. La miséricorde de Dieu, oui, mais pour Israël seulement. Aux autres peuples, le jugement et la vengeance divine. Alors les Juifs réclament des signes miraculeux, c'est ce que Paul nous dit. De la même manière que les Grecs recherchent des bénédictions pour leur quotidien, les Juifs attendent le salut de Dieu sous forme d'une intervention dans l'histoire en leur faveur. Et donc, confrontés à ces deux blocs culturels et religieux, Paul rappelle à ceux d'entre eux qui sont devenus chrétiens le point central de leur prédication, un Christ crucifié. Alors, non, il y a quelque chose qui a sauté. Oui, voilà. Un Christ crucifié, un Christ mis en croix. Christ en hébreu, Messie, ça parle aux Juifs. Un peu moins aux Grecs. Il y a un petit travail d'explication préalable à mener, un peu à l'image de ce que fait Paul à Athènes, à l'Aréopage, pour ceux qui s'en souviennent. Mais crucifié, ça, tout le monde sait très bien ce que ça veut dire. On sait très bien de quoi on parle. On parle de ce sacrifice terrifiant instauré par les autorités roumaines dans tout l'Empire pour imposer autorité et respect aux populations soumises. La prédication de l'Évangile prônée par Paul n'est pas un exposé d'idées, de réflexions que l'on peut débattre, mais l'annonce d'un fait, d'un événement concernant une personne. L'Évangile n'est donc pas une exhortation à comprendre, mais une invitation à croire, à reconnaître dans cet événement l'action de Dieu pour le salut des hommes et à mettre sa confiance dans le crucifié. Paul ne semble ni redouter, ni être surpris par la réaction des hommes. Les réactions sont différentes. Pour les uns, un Messie crucifié, ça n'a pas de sens. Ça ne répond à aucune logique. Ça n'est pas intéressant. Et là, je vous renvoie encore une fois au discours de Paul sur l'Aréopage avec les réactions de ceux qui s'en vont. Nous reviendrons le jour où tu auras quelque chose de plus intéressant à nous dire. Pour les autres, un blasphème, les Juifs, un scandale, le rejet. Mais pourtant, contre toute attente, surgissent de ces deux blocs ce que Dieu a appelé. Et non seulement il les appelle, mais chacun y trouve son compte. Juifs et Grecs, Le grec trouve enfin un Dieu et une sagesse infiniment supérieurs à tout ce qu'il connaissait, et le juif découvre comment la puissance de Dieu, comment la puissance de Dieu a culminé sur la croix en le sauvant une fois pour toutes de tous ses péchés. Je vous propose de lire la suite, de poursuivre notre lecture à partir du verset 26. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. C'est pourquoi, moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Nous sommes arrivés au verset 5 du chapitre 2. Si la première partie de notre texte ce matin était d'ordre général, Paul s'adresse maintenant aux Corinthiens en particulier. Et il les invite à considérer leur propre situation. Il leur décrit une église sans prestige. Regardez-vous, votre communauté est la démonstration même de ce que je viens de vous dire. L'église n'est pas représentative. Votre église n'est pas représentative de la société qui vous entoure. Peu de sages parmi vous, peu de puissants, peu de gens influents. Si vous aviez couru après la sagesse humaine et les dieux païens, si vous n'aviez pas pris distance avec ces choses, vous ne seriez pas ici. Si ces philosophes, ces puissants, ces gens influents sont si peu représentés parmi vous, c'est que eux sont restés attachés, retenus par ces choses. Et peut-être nous sommes, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, dans la continuité que nous avait exposée Éric Le Guénec, notre ancien pasteur. Qu'est-ce qui nous retient de passer par la porte étroite plutôt que de suivre le flot commun ? N'est-ce pas précisément le flot commun ? Mais le mot important, c'est le mot « choisi » qui est répété trois fois. Dieu a choisi qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas un pis-aller, c'est comme s'il fallait faire avec. À l'image de Jésus qui s'est humilié en devenant un simple homme, et là je dis un simple homme avec un double sens, hein, un simple homme comme vous et moi, mais aussi un homme de simple condition, et ce jusqu'à la mort de la croix, humiliation suprême, eh bien, à l'image de Jésus, la communauté des croyants se distingue par une faiblesse apparente, impropre, à lui attirer la moindre considération. Mais ça, ce n'est pas nouveau, parce que le disciple, nous a dit Jésus, n'est pas plus grand que son maître. Là où a marché le disciple, là où le maître a marché, là est le chemin du disciple. La force de Dieu La puissance de Dieu, c'est d'avoir choisi la faiblesse. Et du coup, Dieu devient accessible à ceux qui reconnaissent leur faiblesse, tandis qu'il reste inaccessible à ceux qui ne considèrent que le langage fort, le rapport de force. La vocation de l'Église s'exercera au travers de la vie et du témoignage des chrétiens ordinaires, qui mettront de côté tout désir de briller, qui ne se vanteront ni de ce qu'ils sont, ni de ce qu'ils font, seulement d'avoir été sauvés, choisis par le Seigneur et de lui appartenir, comme un enfant est très souvent fier de ses parents, même s'il ne les a pas choisis, mais auquel il peut choisir, qu'il peut choisir d'imiter et obéir. Alors en quoi ce passage nous concerne aujourd'hui ? Je pense que peut-être vous avez plus ou moins trouvé intéressant de comprendre le contexte dans lequel l'Évangile a été annoncé, mais qu'est-ce que nous en retirons pour nous-mêmes et pour notre proclamation de l'Évangile ? Peut-être ça rejoindra ce que Damien a lu dans le livre qu'il nous a présenté. Pour nous-mêmes, tout le chapitre 1 nous contraint à nous interroger sur le sentiment que nous avons de notre propre valeur et de notre identité. Est-ce qu'il est fondé sur des critères de valeur, de la culture ambiante, en termes de richesse, d'éducation, de prestige et autre chose semblable? Le besoin que les Corinthiens de se donner des maîtres à penser au sein même de l'Église semble indiquer une tentative de redonner du prestige à une institution qui peut-être à leurs yeux en manquait. Ou bien le sentiment de notre propre valeur est-il fondé sur notre identité de pécheur sauvé par grâce? C'est une chose de proclamer bien haut la grâce seule, c'en est une autre de vivre au quotidien en pécheur gracié. Après quoi courons-nous? Quelles sont nos valeurs? Et deuxièmement, que retirons-nous de ce texte pour notre prédication de l'Évangile aujourd'hui en France? Et vous l'aurez remarqué sans doute, à partir du chapitre 2, Paul parle de lui-même, de sa propre expérience. Et peut-être aurez-vous remarqué que par deux fois, au verset 1 et au verset 4 de ce chapitre 2, Paul fait allusion à des termes comme prestige de l'éloquence, discours persuasif, dans d'autres traductions, sagesse du langage, des choses dont il n'aurait pas fait usage lorsqu'il a fondé la communauté de Corinthe. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Alors, sur la base des écrits de Paul dont nous disposons, de sa hardiesse théologique qui émane de ses écrits, mais aussi sur la base du récit du livre des Actes qui évoque un grand nombre de conversions et d'églises implantées comme fruit de son ministère, nous pourrions nous faire une idée assez flatteuse de son éloquence et de ses qualités d'orateur et de tribun. Mais à y regarder de plus près, et sur un fait concret comme son discours à l'Aréopage, dont nous avons parlé tout à l'heure, force est de constater qu'il ne soulève pas l'enthousiasme des foules lors de son passage à Athènes. Et même ceci est corroboré par ses adversaires, parce qu'ils disent de lui, et c'est Paul qui le dit, de son propre aveu dans la deuxième épître aux Corinthiens, en citant ses adversaires, ses lettres, dit-on, sont sévères et énergiques, mais lorsqu'il est là, c'est un faible, et sa parole ne mérite pas l'attention. On lit ceci dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 10. Dans la société grecque, l'éloquence donnait aux sages non seulement un prestige, mais aussi un pouvoir, un moyen d'action sur le monde et sur les hommes. L'éloquence pouvait même suffire à classer un homme parmi les sages, indépendamment des idées qu'il exprimait. Aujourd'hui, les grandes universités organisent des concours d'éloquence qui valorisent ceux qui peuvent captiver votre attention sur un sujet dont ils ne sont absolument pas experts. Et Paul n'est pas, certainement pas en train de nous dire qu'il se serait retenu volontairement de tenir un discours éloquent et persuasif, mais qu'il était parfaitement conscient de son état de faiblesse oratoire. Et plus encore, dans ce monde grec qui raffolait de ses manifestations d'éloquence, il savait par avance qu'il ne répondrait pas à de telles attentes. Et le verset 3, en plus de cela, suggère que son état de faiblesse aurait été encore plus profond au début de son ministère à Corinthe. Et c'est aussi ce que laisse entendre le livre des Actes au chapitre 18. Il aurait vécu un petit coup de moins bien. Voilà. Et il faut une vision du Seigneur lui-même, une nuit, pour le fortifier. N'aie pas peur. Parle et ne te tais pas. Et d'après ce que nous venons de dire, cette dernière instruction prend toute son importance. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. C'est ce que le Seigneur a dit à Paul pour le réconforter au début de son séjour à Corinthe, au moment où il a fondé cette église. Paul a donc débuté son ministère à Corinthe dans un état d'extrême faiblesse. Et c'est sans doute ceci qui lui revient au moment où il écrit ces lignes aux Corinthiens depuis Éphèse. Et mais ceci illustre aussi parfaitement le principe qu'il développe ici, à savoir que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme, à l'image de Christ, premièrement, et de ses disciples ensuite. Le messager doit être conforme à son message. La prédication de la mort de Christ sur la croix n'offre aucune raison de se glorifier, de se mettre en valeur. Loin d'être valorisante, elle est humiliante, puisqu'elle fait dépendre le salut non de la valeur de l'homme et de ses réalisations, mais d'un acte de Dieu. Et bien sûr, ceci renversait les valeurs des Grecs, et peut-être que ça renverse encore aujourd'hui nos valeurs, ou du moins une certaine idée que nous pouvons nous faire de la proclamation de l'Évangile. Je pense en particulier au discours persuasif que sur YouTube de pseudo-apôtres qui cultivent leur aura auprès de leurs admirateurs. Mais si l'approche de Paul, autre tout prestige et tout mérite aux messagers de l'Évangile, elle est aussi formidablement décomplexante et désinhibante. L'annonce de l'Évangile dépend infiniment moins de notre capacité à le communiquer que de la réalité dans nos paroles et dans nos actes de son message, à savoir, Christ est mort sur la croix, une fois pour toutes, pour nous sauver et nous éloigner de nos péchés, tout autant dans la vie présente que pour la vie éternelle. La vérité de l'Évangile ne se démontre pas par l'éloquence ou le raisonnement, elle se vérifie dans la vie des croyants. Elle manifeste son efficacité et sa puissance par des vies transformées à la gloire de Dieu. Une vie changée n'est pas objet de discussion, c'est un fait, c'est une expérience concrète. Et cette expérience, Paul l'a vécue, et il peut constater que là où l'Évangile est annoncé, reçu, des hommes et des femmes vivent cette même réalité d'une vie nouvelle. Et c'est Dieu qui a choisi qu'il en soit ainsi. Il n'en est pas ainsi depuis les débuts de l'Église, il en est ainsi depuis que son fils est né incognito dans une étable. Nous ne faisons que suivre ses traces. Quand une personne, consciente de sa faiblesse, s'abandonne à Dieu totalement pour obéir et accomplir ce qu'il lui demande, ça c'est fort. N'aie pas peur, parle et ne te tais pas. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que nous pouvons rechanter le chant de bénédiction que nous avons chanté tout à l'heure ?